Chapitre 10. Le jour de la grande battue. Akane regardait le ciel, inquiet. Des nuages gris encerclaient un minuscule carré de ciel bleu, mais celui-ci résistait. Pour combien de temps? Combien de minutes avant que les nuages sombres ne forment plus qu'une immense toile au-dessus de leur tête et que la pluie ne tombe sans cesse? Avec délicatesse, Akane s'avança vers Chrysante, assise dans l'herbe avec sa poupée, et l'invita à se pousser. « Tu vas te faire écraser. » Chrysante sourit. Elle adorait les petites attentions des grands garçons. Elle se décala de quelques mètres tout en restant devant les autres enfants pour ne rien rater du spectacle. « Tu vas voir, » fit-elle à Lali. « C'est le plus beau spectacle de l'année, la libération des bébés perdus. » Les garçons et filles se tenaient assis ou debout à côté des quatre pieds du tipi. Vanille avait enfilé une jolie robe de la couleur de ses cheveux blonds, fabriquée avec des feuilles de blé et de maïs séchés, et notait le plus rapidement possible, sur une grande écorce de chêne liège, le nombre de bébés animaux de chaque espèce qu'on allait rendre à la forêt. Akane continua de s'avancer, accompagné de Mook et Caméliane, et souleva la barrière qui fermait la palissade de branches. Les bébés animaux, dans un premier temps, ne comprirent pas que l'enclos était ouvert. Les fans de quelques mois, les chevreaux, les marcassins, les agneaux, les porcelets, tous continuèrent de brouter l'herbe ou de dormir dans la boue provoquée par la pluie des derniers jours. Akane, le premier, siffla. Puis, tous les autres enfants du tipi s'y mirent aussi. Mook tapa à toute force sur son tambour. Bill et Cheyenne entrèrent dans l'enclos, armés de grandes branches de saules pleureurs, et les secouèrent pour effrayer les bêtes. Wayne les suivit et agita son chapeau. Terrifiés, les jeunes animaux tournèrent d'abord un peu en rond, se serrant les uns contre les autres, poils contre laine, peau contre duvet, comme s'ils espéraient former une tribu capable de se défendre. Puis, un premier fan paniqua et fila à toutes jambes, et ce fut la débandade. Les bébés de la crèche aux animaux se séparèrent sans un « au revoir ». Une immense clameur s'éleva sous le tipi. Tous les garçons et filles crièrent et sifflèrent, saluant les animaux, presque tous orphelins, qu'ils avaient sauvés quelques jours après leur naissance, ramassés au creux d'un chemin, patiemment élevés et enfin libérés. En quelques secondes, l'enclos fut vide et les derniers marcassins filaient dans les rues. Tous retrouvèrent d'instinct le chemin d'un parc ou des bois. Tous retrouvèrent les leurs, fonderaient une famille, repeupleraient la forêt. La vie des animaux était plus simple que celle des humains, plus courte aussi. Akane referma l'enclos, désormais désert. Ses yeux se perdirent un instant vers le haut du tipi, jusqu'au quatrième étage d'où Mordelia avait dû apprécier le spectacle. Puis son regard fila le long de l'eau, imaginant le château après la courbe du fleuve. Il se fit la réflexion que ceux du château libéreraient peut-être Zizo aujourd'hui, puisque lui aussi était un enfant perdu. Mais non, ceux du château ne s'occupaient pas des animaux. Ils ne chassaient ni ne pêchaient. Cette journée, la dernière des jours ensoleillés, ne représentait rien pour ces enfants qui vivaient sous terre ou enfermés. Dans les jours qui allaient venir, Akane devrait discuter avec Mordelia. Fallait-il envoyer un nouvel espion rôder autour du château? Avec quelles recommandations? La fenêtre cassée avait été réparée, Mordelia le lui avait montré avec sa longue vue. Fallait-il envoyer une patrouille, dont il aurait pris la tête pour aller discuter avec ses autres enfants? Jamais cela ne s'était fait. Ou bien fallait-il se préparer à les attaquer? Comme de plus en plus de garçons et de filles du tipi, pas seulement Bill, semblait le penser. Le chef du tipi attendit ainsi plus d'une heure à réfléchir, sans parler. Il devait laisser le temps aux bébés animaux de se cacher. Les dernières taches de bleu dans le ciel avaient été absorbées. Quelques premières gouttes de pluie tombèrent. Tous les occupants du tipi en étaient conscients. Les premiers froids allaient revenir. La nature allait s'endormir. Les jours allaient devenir plus durs. Alors, aujourd'hui, il fallait se donner du courage, montrer aux arbres, aux fleurs, aux bêtes, qu'eux aussi, les petits humains, survivraient. Akane leva la tête, essayant de repérer d'où venait le vent. Poussait-il les nuages vers la partie la plus claire ou la plus sombre du ciel? Des bûches et des branches étaient rangées sous de grandes bâches de peau, protégées de la pluie. Ils allumeraient le grand bûcher dès la tombée de la nuit pour célébrer la fin de la grande battue. Jamais jusqu'à présent, de mémoire d'enfant, ils n'avaient dû renoncer à ce banquet, à cet immense feu qu'ils allumeraient sous le tipi et qui devait se voir de toute la ville, à ce festin fabuleux constitué des animaux chassés dans la journée qu'on mangerait, qu'on conserverait aussi, pour les jours, les semaines d'après. « Pourvu qu'il ne pleuve pas cette année, » espéra Hakan. « Pourvu qu'il y ait une éclaircie ce soir et cette nuit. » Certains enfants seraient capables de voir un signe dans le ciel gris, un signe terrible, un signe de guerre. Certains l'exploiteraient. Bill le premier. Sous le tipi, les petits chasseurs s'impatientaient. Tous piaffaient, pressés de s'élancer vers la forêt.
« C'est bon !» grognaient quelques-uns. « Les bébés animaux ont assez d'avance !»
Hakan attendit encore plusieurs minutes, puis, enfin, leva bien haut les deux mains. Une nouvelle immense clameur retentit dans tout le camp. Hakan réclama le silence et rappela brièvement les consignes. Ne jamais rester seul. Faire du bruit, beaucoup de bruit, pour éloigner les animaux les plus féroces. Les loups, le louponero, même si tous semblaient avoir oublié ce monstre depuis quelques mois. Ne pas tuer davantage d'animaux qu'on ne pouvait emporter. Ne pas ramener d'animaux blessés ou déjà morts. Ramasser aussi tout ce qui pouvait se manger, champignons, racines, mûres. Et s'amuser. S'amuser pendant une journée, sans détruire la nature. Juste cueillir ce qu'elle leur offrait. Avant qu'elle ne se recroqueville dans sa courte mort. Puis, d'un coup, Hakan baissa les bras et tous les chasseurs s'élancèrent en courant, sans se soucier du ciel de plus en plus menaçant, en direction du pont qui franchissait le fleuve et menait à la forêt, encore plus rapide que les bébés animaux qu'on avait libérés. Des dizaines d'enfants, heureux et hurlants. Seuls quelques-uns ne participaient pas à la fête, ou avec moins d'enthousiasme. Chrysante suivit à distance les chasseurs, sans jamais courir. Elle avait décidé de les accompagner avec Lali, sans se presser. Vu le ciel, elle hésitait à trop s'éloigner. Lali détestait être mouillée. Finalement, elle observa le tipi derrière elle et décida très vite de faire demi-tour pour se mettre à l'abri, tout en glissant Lali sous sa cape pour que sa poupée soit protégée de la pluie. Sur le chemin du retour, peut-être trouverait-elle un scarabée à rapporter, comme effort de participation à la grande battue. Elle leva les yeux vers le quatrième étage du tipi. Un scarabée ou un escargot, ce serait toujours mieux que rien. Mieux que ce que rapporterait Mordelia. Cette sorcière, pensa Chrysante, daignera-t-elle au moins descendre de son nid et faire une apparition lors du banquet ? Les enfants se dispersèrent dans les bois, par groupes de trois ou quatre, sans oser toutefois trop s'éloigner. Le plus souvent, ils restaient sur les chemins envahis d'herbes, s'efforçant de toujours voir entre les arbres le sommet du tipi, ne s'enfonçant jamais au plus profond de la forêt, jusqu'au grand lac ou la cascade, que seuls quelques chasseurs expérimentés avaient déjà exploré.
« Agnel ! Agnel !»
C'était Suzy qui criait. Leur groupe de quatre était également composé de Pépin le Peureux et d'Auriel. Tous se tenaient sur les rives d'un petit étang, bordé d'une minuscule cabane de bois effondré.
Agnel ! Agnel !
Les cris de panique, presque hystériques, redoublèrent. Agnel, allongé à plat ventre sur une berge moussue, occupé à rechercher le nid d'une poule d'eau, se redressa d'un bond. Il courut vers Suzy, pieds nus dans la boue du bord du lac. On aurait dit un héron qui prenait son élan pour s'envoler. Sauf qu'Agnel resta les chevilles engluées dans la terre meuble et ralentit, s'arrêta. S'accroupit au milieu des trois chasseurs. À ses pieds gisait une dizaine d'aigrettes, très jeunes, de quelques semaines à peine. Agnel observa le léger mouvement du vent sur l'étang et en conclut que les oiseaux avaient dû se noyer ou se laisser flotter sans réagir, sans se débattre, comme un enfant fatigué de nager. Ces oiseaux d'eau avaient cessé de battre des pattes et le courant les avait fait dériver jusqu'ici, à l'endroit exact où se rejoignaient les herbes, les branches et les divers débris tombés dans l'étang. Agnel ne comprenait pas. Un oiseau d'eau pouvait-il être fatigué de nager ? Un oiseau d'eau pouvait-il se laisser couler? Ça n'avait aucun sens. Les aigrettes n'étaient pas mortes, juste engourdies, comme si l'eau était trop froide, ou trop épaisse, ou trop bouillante, mais en tout cas, malfaisante. Sauf qu'elle semblait claire et transparente. Empoisonnée. Agnelle souleva l'aile d'une aigrette. Elle retomba aussitôt, comme si l'oiseau était également fatigué de voler. Les plumes paraissaient poisseuses, collées par une résine invisible. Les yeux des oiseaux étaient vides, fixaient une destination inconnue, un peu de la même façon que Mordelia lorsqu'elle lisait un de ses livres secrets. Était-il déjà parti vers une autre vie, où il n'y avait besoin ni de nager ni de voler? Un autre détail attira le regard d'Agnelle. À quelques pas des oiseaux inanimés, gisait un autre volatile. Mort celui-ci, en partie dévoré. De fines plumes blanches étaient éparpillées sur la rive. Une patte était déchiquetée. Un rongeur, sans doute, avait profité de l'apathie inhabituelle de l'oiseau pour l'attaquer. Sans terminer son repas, le rongeur l'avait à peine touché. Juste quelques crocs plantés dans la chair. Le sang rouge avait commencé à coaguler. Intriguée, Agnelle avança encore, écarta les joncs et les roseaux de la berge, suivant la trace des gouttes de sang. Il la vit alors. Une loutre de belle taille, le poil lisse. Mâchoire ouverte, les crocs encore ensanglantés. Morte. Morte de s'être attaquée à un oiseau malade. Morte de l'avoir à peine goûté, du bout des dents. Foudroyée. Agnelle observait le cadavre, consternée. Les oiseaux nés au bord de l'étang étaient maudits. Aussi dangereux que ces champignons rouges ou ces fleurs toxiques qu'il fallait éviter. Un piège. Un piège, et contrairement à la couleur écarlate pour les champignons et à l'odeur forte pour les fleurs, la nature n'avait rien prévu pour signaler aux animaux ce danger-là. La pluie se mit brusquement à tomber. Agnelle resta à regarder les gouttes ruisseler sur les ailes des oiseaux pétrifiés et glisser ensuite dans l'eau de l'étang. Il leva les yeux au ciel. Le gris virait au noir. Les nuages étaient si bas que même le soleil de fer disparaissait. Il n'y aurait pas d'éclaircie ce soir pour la fin de la grande battue, pour le festin et le grand feu sous le tipi. C'était la dernière chose qui l'inquiétait.